partir à la rencontre de mon invité du jour, je me rends sur les hauteurs de Bienne, à quelques pas de la station intermédiaire du funiculaire des Villars. Difficile de rater son entreprise, elle occupe plusieurs imposants bâtiments qui surplombent la ville. Connaissant les lieux, je me rends vers le bâtiment qui a l'air le plus petit et le plus ancien. À première vue, on n'imaginerait pas qu'il héberge les locaux de la direction de cette société qui occupe près de 1000 personnes. Néanmoins, cette bâtisse offre un avantage, le calme, loin de l'effervescence qui anime le reste du site de jour comme de nuit. Après avoir aperçu quelques bureaux vides, je m'annonce un peu au hasard à deux femmes assises devant leurs ordinateurs. Elles m'installent dans une petite salle équipée d'un grand écran de télévision et d'un tableau blanc couvert de schémas multicolores. J'attends quelques minutes, mon invité arrive, me prie de l'excuser, l'air de dire que le travail ne manque pas. Sans doute le prix à payer lorsque l'on est le capitaine d'un grand navire qui ne s'arrête jamais et dans lequel chacun est le bienvenu pour soigner ses petits mais surtout gros bobos, donner la vie ou la quitter dans les meilleures conditions possibles. Heureusement, la pression ne fait pas peur à mon invité, les défis le stimulent et son enthousiasme est communicatif. Christian Schneider, vous êtes le directeur du centre hospitalier Bienne, bonsoir.
Sortie de boîte, Alexandre Steiner.
Christian Schneider, les directeurs d'hôpitaux sont souvent des économistes, mais ce n'est pas votre cas. Quel a été votre parcours avant d'obtenir votre première direction d'hôpital ?
Alors j'ai commencé comme infirmier à Bâle, au centre universitaire, il y a bientôt 30 ans. Et puis, non, mais même un peu plus de 30 ans. Et puis, j'ai fait ma carrière pour 20 ans à Bâle. Et puis, de Bâle, on m'a demandé si je serais intéressé de pas seulement diriger les soins, mais aussi tout un hôpital. Et j'ai commencé après dans le Jura, avec le poste de directeur.
La santé, c'était une évidence ou vous y êtes arrivé un peu par hasard ?
Non, pas du tout une évidence. Mais c'était après que j'ai fait... j'ai fini l'école, j'ai fait le bac en Allemagne. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que je veux faire. Et puis, j'étais jeune, j'étais intéressé par tout, mais pas spécialement par les soins. Et puis, j'ai décidé de faire le service civil en Allemagne et j'ai travaillé pour 15 mois dans un home. Et c'est là où j'ai découvert les soins.
Alors, après avoir gravi les échelons en tant qu'infirmier à l'hôpital de Bâle, le canton du Jura est venu vous chercher pour diriger son hôpital en 2013, alors que vous ne parliez pas très bien le français. Pourquoi vous ?
Alors, vous devez demander les gens qui étaient à l'époque dans le conseil d'administration. J'ai parlé un petit peu le français, un petit peu le français familial, parce que j'ai entre-temps rencontré mon ami français. Et puis j'ai habité en France, mais c'est vrai que toutes les expressions, les abréviations professionnelles de la santé, c'était pas du tout connu. Je me rappelle toujours la situation dans la première séance du comité de direction, et puis le directeur de finance qui dit « oui, mais la LAMAL ». Et puis je dis « mais c'est quoi la LAMAL ?» Et puis voilà, mais on apprend vite. Et puis je pense ils m'ont pris aussi pour ma personnalité.
C'était aussi une période où l'hôpital du Jura était un peu en crise. C'était aussi peut-être pour avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient avec un autre œil.
Je pense que c'était la meilleure solution à cette époque-là, de prendre quelqu'un qui ne vient pas de la souche jurassienne et qui vient avec des nouvelles idées, et puis surtout qui n'a pas des comptes à rendre ou qui a grandi là-dedans avec des histoires avec... Des anciens politiciens ou des artisans, etc. J'étais complètement neutre et aussi libre.
Alors en passant d'infirmier chef à directeur, vous avez aussi changé de statut par rapport aux médecins. Vous étiez en dessus d'eux tout d'un coup. Est-ce que vous avez senti des réticences par rapport à votre formation d'infirmier ?
On me les a apportées de temps en temps, mais je ne les ai pas senties directement. Il n'y a pas un médecin qui veut venir, mais de toute façon, tu ne peux me rien dire. Mais mon idée, c'était de montrer du début que chacun a son métier et de lui montrer le respect par rapport à ses compétences, son savoir-faire. Et puis du début, j'ai essayé de rester chez moi dans cette rôle de diriger une institution.
Après 5 ans passés à redresser l'hôpital du Jura, c'est cette fois le canton de Berne qui est venu vous chercher pour remettre sur pied le centre hospitalier Bienne qui était aussi en crise. C'était en octobre 2017. Est-ce que l'on peut vous définir comme un sauveteur d'hôpitaux ?
Alors peut-être c'est si je fais ça une troisième fois, après peut-être on peut le dire. Je pense qu'il y a certainement quelque part un hasard aussi dans cette situation, que je reviens de la deuxième fois dans une situation où il y a plus ou moins une crise. Mais c'est aussi quelque chose qui fait qui me fait beaucoup, beaucoup plaisir de redonner à tout collaborateur une envie de reconstruire quelque chose et puis de travailler sur notre mission. Et pour moi, c'est les fruits que je peux récolter. Et c'est ça qui me fait que le soir, quand je rentre à la maison, que je suis super satisfait.
Vous m'avez dit aussi, ce qui est bien avec les situations de crise, c'est qu'on n'a pas la peur. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Dans une crise, vous devrez décider relativement vite parce que sinon ça s'aggrave. Et puis, vous devrez convaincre tout le monde autour. Dans mon cas, je dois convaincre le conseil d'administration, mais aussi les gens dans mon équipe, qui n'est pas très grand, c'est que tous les autres directeurs, de prendre un chemin. Et ça se fait vite. Alors, de convaincre toutes ces personnes-là, ça c'est un super travail, j'aime bien. Et puis voilà, pour l'instant ça a toujours fonctionné, alors on verra.
Alors on va revenir sur l'hôpital, on ne va pas retracer ces 604 ans d'histoire de l'hôpital de Bienne, mais est-ce que cette longue tradition historique influence ce qu'est le CHB aujourd'hui ?
Je pense pas trop. Quand vous êtes à Bienne, dans n'importe quelle rue, vous trouvez quasiment un bâtiment où il y avait l'hôpital un jour. Vous êtes dans la vieille ville, il y a tout un petit bâtiment, c'était l'hôpital. Après Passe-Coire, c'était aussi l'hôpital. Je pense pas que c'est ça qui fait que cet hôpital est extrêmement important pour l'agglomération et la région. Mais c'est quand même si on est une société anonyme, de droit privé, notre propriétaire, c'est le canton.
Alors justement, vous êtes une société anonyme depuis 2002, vous le dites, le propriétaire, c'est le canton, mais qu'est-ce que ça change quand même par rapport à un hôpital qui est vraiment en main publique ?
Ça ne change pas parce que le propriétaire, c'est le canton, ça veut dire qu'on a une mission, et cette mission, c'est de couvrir avec certaines prestations toute une région, et puis répondre aux besoins de la population. Et ça nous tient encore. Ça veut dire, nous, on est vu par la population comme faisant partie du service public. Normalement, le service public, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est toutes ces choses-là. Nous aussi, on est vu comme ça. Ça veut dire, je pourrais arrêter des prestations parce que je gagne pas d'argent, mais je le fais pas. Parce que c'est un besoin de la population. Et ça, c'est la grande différence à une boîte privée.
Alors justement, vous appartenez au canton, mais quand même, par rapport à un hôpital vraiment public, vous dépendez moins des décisions politiques. Vous me l'avez dit, pour vous, il est important de ne pas politiser les hôpitaux. Pourtant, c'est très souvent le cas en Suisse. Pour vous, quel est le risque si on politise trop l'hôpital ?
Si on politise l'hôpital, on va prendre des décisions qui vont à l'encontre du développement qu'on en voit aujourd'hui, des défis qu'on a, soit c'est la digitalisation, soit c'est la question des coûts. Et puis, finalement, on va se trouver dans une situation où on ne sait plus si on doit aller à gauche ou à droite. On a besoin d'une certaine liberté entrepreneuriale de décider où on veut aller. On a un cadre qui est donné par l'État. Mais après, les petits détails, c'est à nous de décider. Alors pour moi, c'est ce que j'ai vécu dans le Jura. Je dois dire, dans le canton Berne, on n'est pas du tout politisé, on est vraiment libre, mais on a besoin quand même un chemin qui est tracé par le canton, respectivement aussi Berne fédéral.
Alors aujourd'hui, le monde médical est en pleine mutation, les défis sont nombreux, vous venez de le dire, comme dans d'autres secteurs d'économie, la digitalisation est en marche, et c'est ce que nous allons voir avec Nadia, qui a notamment rencontré Marcel Ulrich, responsable du service informatique au sein du centre hospitalier Bienne.
Sortie de boîte.
Nous sommes une vingtaine de personnes qui assurent l'exploitation de tous les systèmes informatiques, aussi bien les systèmes médicaux que les systèmes d'administration. Un grand thème, c'est la sécurité. L'autre thème, c'est toute la digitalisation. Ici, j'aimerais mentionner le dossier électronique du patient. C'est une loi fédérale. On est obligé d'offrir un dossier électronique pour tous les patients qui le commandent. Autre chose, c'est les digitalisations internes. Et on veut éliminer le papier, on veut optimiser les processus, tout ça pour les personnels, mais aussi pour les patients.
Ce système, ça améliore la capacité aux patients de savoir exactement ce qui se passe pour lui au sein de l'hôpital. Ça permet au personnel de l'hôpital de connaître directement le dossier du patient. Ça permet moins d'aller-retour dans les bureaux, ça permet un meilleur suivi du patient. C'est ça aussi la digitalisation.
Exactement. Les données, ils sont disponibles plus vite. Aussi bien les rapports des médecins, les données, ils sont visibles pour plusieurs personnes qui partagent le processus. À la fin, c'est une question de sécurité pour le patient. L'avantage du dossier électronique du patient, aux vacances, par exemple, à Adelboden, et on casse un jambe, on peut aller à l'hôpital, à Thun, et là, les documents, ils sont envoyés, le patient, il peut donner la permission d'accéder à ce dossier ici à Vienne.
Sabrina Skassa, je suis chef infirmière pour les privés, demi-privés, patients mélangés, médecine et chirurgie. Si un patient vient par exemple par urgence, et là il y a beaucoup des ordonnances au début, on a perdu une demi-heure jusqu'à 40 minutes seulement pour mettre les ordonnances sur notre dossier. Et maintenant avec le nouvel système, le médecin il fait les ordonnances dans le guichet. Ça s'appelle comme ça notre dossier et moi sur le service je le vois tout de suite. Je dois rien écrire, je dois seulement valider avec un clic.
Ce système il est là, est-ce que vous pourrez me le présenter un petit peu?
Sur la première page vous voyez un peu, ça c'est les ordonnances qui fait le médecin, qu'est-ce qu'on doit faire. Et après sur la deuxième page on a les médicaments qui sont ordonnés. Le médecin il pourrait me faire une ordonnance pour le labor. On va le envoyer au labor et si ils sont reçus, elles scannent et après si c'est bleu, moi je sais ok, la labor ils sont reçus. Et en plus, on a un mobile possibilité. Ça c'est un petit natel. Et là, je peux aller chez le patient, je peux scanner son bracelet et après ça ouvre directement le dossier de patient. Ça c'est exactement la même que sur l'ordinateur. Et en plus, derrière vous, chariot mobile comme ça, avec les roules. Et ça, c'est vraiment, on a tout sur le chariot, aussi les choses pour le pansement. Et là, on pourrait aussi nous connecter avec le système et on est mobile.
Peut-être une petite prévision pour le futur. On a fait un projet de pilote avec une application pour les patients sur le tablette, téléphone, où les patients peuvent commander à manger, où ils peut poser des questions au médecin. C'est pour une communication plus directe entre patients, soins et des médecins.
Sortie de boîte.
Christian Schneider, la digitalisation, c'est un défi parmi d'autres pour les hôpitaux aujourd'hui. Pour vous, vous dites même qu'il faut complètement changer la manière de travailler dans les hôpitaux. Qu'est-ce que ça signifie?
On voit bien que ce dossier qui doit se mettre en place au niveau national a un petit peu de mal aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre toutes les prestataires ensemble. On fait des choses en doublant, on oublie ou on perd des connaissances sur un patient, et puis ça coûte cher, finalement ça coûte cher. Et puis quand on voit d'autres industries qui sont capables de digitaliser quasiment tout leur processus. Je prends un vol, je vais tout organiser avec mon iPhone, le moment où j'ai envie. Mais si vous voulez rentrer dans un hôpital chez un spécialiste, c'est une bataille. Hein. C'est par téléphone, par la centrale, après une secrétaire, elle a une mauvaise journée. Puis après, où sont les données, la numéro d'assurance, etc. Alors ça ne se finit pas. Alors rentrer dans un hôpital, c'est extrêmement dur. Et puis là, on doit complètement changer. Faciliter l'accès, récolter les données et les bien utiliser.
Un autre changement qui pourrait intervenir, hein, c'est sur le plan de la concurrence. Les hôpitaux sont souvent en forte concurrence entre eux. Est-ce que ces querelles entre établissements auront encore leur place à l'avenir, selon vous? Ou est-ce qu'il faut évoluer à ce niveau-là aussi?
On doit complètement évoluer. Si je dis aujourd'hui privé ou public, ça ne compte plus. C'est de couvrir les besoins de de la population. Et puis surtout, moi, c'est mon avis personnel, l'hôpital, c'est Moyen-Âge. On ne devrait plus parler d'un hôpital, on devrait parler d'un système de santé qui s'occupe de la population, qui englobe la psychiatrie, qui englobe tout ce qui est ambulatoire, des spécialistes, les spitex, les soins à domicile, etc. Tout ça dans un système qui propose de s'occuper de la population. Et je suis certain que c'est moins cher.
Alors vous l'avez dit, hein, les hôpitaux proposent de plus en plus de prestations. Pour vous, certaines vous font perdre de l'argent, d'autres en rapportent. Comment est-ce que vous choisissez finalement ce que vous proposez ? Comment vous faites la balance ?
Pour l'instant, on ne l'a fait véritablement pas. C'est-à-dire, ce qu'on fait, on le fait. Il y a des prestations où on sait pertinemment qu'on va perdre l'argent, mais on les fait quand même. Pourquoi ? Parce que si nous, on ne le fait pas, personne ne va le faire. On devrait arrêter et mieux négocier avec les assurances, mais je dis, ça doit être complète. Le problème, c'est plutôt comment on est payé pour les prestations. Et je pense là, le système suisse avec les DRG cette financement par Tarmed pour les prestations ambulatoires, ça c'est du temps passé. On doit passer par une capitation, ça veut dire je veux recevoir un certain budget pour la population et avec ça je gère la santé et plus, parce qu'aujourd'hui on fait de la réparation, mais on ne gère pas la santé. Et ça on doit changer.
Par rapport à la plupart des autres hôpitaux, hein, à Bienne, vous avez aussi une particularité, c'est le fait d'être bilingue. Pour vous, c'est une chance incroyable. En quoi c'est une chance ?
C'est une chance parce qu'on peut, attirer des spécialistes germanophones ou francophones qui ont fait la formation dans les universités et qui veulent se perfectionner dans une deuxième langue qu'on parle en Suisse. Et ça, c'est très intéressant. Et finalement, une fois on est chez nous et on voit comment on gère les séances, par exemple, où chacun peut parler dans sa langue, et c'est un petit peu comme dans le Conseil fédéral, ça c'est culturellement très enrichissant.
Et pour les patients, ça pose des problèmes parfois ?
Moi, tout le monde n'est pas parfait dans les deux langues. De temps en temps, certes, quelqu'un qui vient du Jura-Bernois travailler chez nous, qui n'est pas encore assez fort dans l'allemand, peut-être il peut pas tout expliquer avec la passion de germanophone, mais il y a toujours des collègues à côté qui savent parler. Nous, on investit beaucoup dans la formation, mais finalement, les patients qui viennent chez nous, ils savent ça, et puis ça c'est vite excusé.
Alors pour faire rapidement un petit point financier, hein, quand vous êtes arrivé, on l'a dit, le centre hospitalier Bienne était dans une situation difficile. Vous l'avez dit, vous ne calculez pas forcément, vous ne coupez pas dans les prestations pour faire des économies. Aujourd'hui, où en sont les finances du centre hospitalier par rapport à quand vous êtes arrivé ?
Alors, on avait une grosse perte en 2017. Effectivement, c'était une petite catastrophe. On a diminué cette perte pour 2018. Je ne peux pas encore annoncer les chiffres parce que la révision va venir encore. Mais on a diminué à 50% cette perte. Et puis prévu, c'est d'égaliser nos comptes finalement pour fin 2019, début 2020. C'est-à-dire, je dis toujours, c'est un chemin de freinage. Ça ne peut pas se régler d'un jour à l'autre. On pourrait le faire. On fait un assainissement complet. Ça veut dire on coupe les prestations, tout ce que... qui ne gagnent pas d'argent. Mais ça, on ne voulait pas faire. On voulait faire une stratégie, aller en avant, ça veut dire de recréer des prestations qui manquaient, et plutôt reprendre le train sur le temps.
Pour en revenir aux défis qui attendent le centre hospitalier Bienne, hein, il en est un de taille. Vous prévoyez de déménager. C'est indispensable pour la survie de votre établissement, ce déménagement ?
Oui, c'est indispensable parce que déjà notre infrastructure, elle est vieillot, elle est plus adaptée au processus qu'on veut mettre en place pour les patients, pour le chemin des patients. Et puis, on est véritablement mal placé. Les gens qui connaissent bien le centre hospitalier, qui savent bien qu'on passe des petites rues d'un quartier résidentiel. Nous devrons construire un nouvel hôpital près des axes autoroutes ou des axes routes ou axes aussi trains et bus mieux accessibles qu'aujourd'hui.
Alors, en novembre dernier, hein, vous disiez vouloir ouvrir le nouveau site en 2024. Actuellement, le site n'est toujours pas définitif. Hein, vous ne pouvez pas encore nous dire ce qu'il en est à ce niveau-là. Ça vous semble encore réaliste, ce délai de 2024, ou on est en train de prendre du retard ?
Alors, on prend un petit peu de retard dans la définition du site. C'est vrai que je viens d'une discussion, mais je suis certain dans les 2, 3, 4 prochains mois, ça va se clarifier. Chaque mois, on négocie de plus. C'est un mois qui va s'ajouter, mais on est encore fin 24, maxi début 25. Je dois dire que si on arrive de construire cet hôpital dans 6-7 ans, c'est une des constructions les plus vite en Suisse. Alors on va rester sportive.
Très bien, donc et on l'a dit hein, tout à l'heure, l'hôpital de Bienne a plus de 600 ans. Dans sa chronique horlogère qu'on retrouve maintenant, Marie-Lise Saillard nous parle quant à elle d'un célèbre nonagénaire.
Pile à l'heure.
C'est un petit reporter à l'allure sympathique, reconnaissable en un clin d'œil grâce à sa houppette légendaire et ses inimitables pantalons de golf. Il est souvent accompagné de son chien.
Avec son petit chien si drôle.
Ce jeune homme a pour ami un vieux loup de mer.
Mille tonnerres de Brest.
Journaliste à l'éternelle jeunesse, il a pourtant 90 ans cette année. Vous avez tous reconnu le héros de la bande dessinée d'Hergé, Tintin. Un personnage comme lui fait beaucoup vendre depuis sa création. On parle de plus de 220 millions d'albums écoulés, sans compter l'engouement autour des planches originales dont les prix s'envolent et tous les objets dérivés estampillés Tintin qui inondent le marché. Au milieu de tout ça, pas étonnant de trouver des montres à l'effigie du Blondinet. Les montres Tintin étaient exclusivement des montres SeaTime depuis 1993, année où l'entreprise française a acquis la licence mondiale. Il s'agissait alors de montres assez classiques, avec des boîtes acier souvent rondes, parfois rectangulaires, bracelets cuir, avec des cadrans où étaient imprimées des scènes d'albums de Tintin.
Je pensais qu'un vieux loup de mer comme vous devait se sentir bien seul dans sa barquette. Alors j'ai songé à vous offrir ce perroquet, qui sera pour vous le plus fidèle des compagnons.
Quoi ?
Mais au printemps dernier, Tintin s'est associé avec une autre marque, Ice Watch, une marque horlogère belge cette fois. Logique.
T'as tué, le zine que du voisin a encore pissé sur les plantes.
Ice Watch a convaincu la société Moulinsart, chargée de l'exploitation commerciale de l'œuvre d'Hergé, notamment à travers ses éditions et ses produits dérivés. De cet accord sont nées 3 collections de montres avec 24 références. On y retrouve l'univers du pays des soviets. De la Lune.
Vous avez réussi, professeur, on a marché sur la Lune.
Et on retrouve aussi les personnages d'Hergé.
Moi, tout le sol, je fais le joie. Je fais le joie.
Les prix de ces montres Ice Watch Tintin varient entre 89 et 179 francs.
Pile à l'heure.
Christian Schneider, avant de nous quitter, une dernière question. Quand je suis venu vous voir, vous m'avez dit une phrase qui m'a marqué. Vous m'avez dit, être un directeur, ce n'est pas être un chef. Alors qu'est-ce que c'est d'être un directeur ?
Alors, pour moi, le directeur, c'est surtout un serviteur à tous les collaborateurs pour qu'eux, ils peuvent œuvrer tous les jours. C'est vrai que le directeur, c'est dans le mot, il doit diriger, il doit donner, je dirais, une vision, et une vision à long terme, il doit expliquer au personnel où on veut aller. Mais finalement, dans le quotidien, je suis là pour qu'eux, ils peuvent travailler mieux, se sentir mieux et remplir cette mission qu'on a pour la population. Et c'est pour ça que je dis directeur, c'est certes quelque part un statut, mais ça n'a rien à faire avec une hiérarchie, ça a à faire quelque chose avec une culture aussi où moi, je ne veux pas avoir un grand bureau. J'ai un petit bureau avec un collègue, mon secrétaire général, mais voilà, j'ai pas besoin des symboles statut. Je veux avoir le contact et ça, c'est ça qui est important.
Eh bien, Christian Schneider, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé cette vision avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre hospitalier Bienne. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup à vous aussi.
Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site internet d'ici quelques minutes. La semaine prochaine, Sortie de boîte s'intéressera aux airbags pour se protéger des avalanches. Adrien Juvet accueillera Marc-Antoine Cher de la société Alpride. Et d'ici là, belle fin de semaine à toutes et à tous.
Sortie de boîte.